Bonjour à vous. En tout cas, que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. Le temps et les circonstances sont entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Vous avez sans doute entendu, vous qui regardez la télé ou écoutez la radio, il y a une pub qui tourne en ce moment et qui dit « C'est la rentrée et il faut bien se mettre dans le bain ». Je suis d'accord. C'est la rentrée. Et il faut se mettre dans le bain. Et en cette période de rentrée d'école, rentrée de travail, reprise de formation, il peut arriver qu'on se pose la question du sens de ce qu'on entreprend. Non ? Ça ne vous arrive pas ? Oui ? Et cette question peut survenir en particulier lorsqu'on prend le temps d'observer que pratiquement tout ce qu'on fait dans la vie, tout revient de manière cyclique. Les saisons viennent, ils partent, janvier arrive, janvier repart, l'école ouvre, ensuite l'école se ferme, c'est les vacances, c'est le moment du repos. Les jours se suivent, certaines se ressemblent. Nous naissons, nous grandissons, nous faisons des enfants, nous mourons. La génération suivante arrive et elle reproduit le même schéma. La Terre tourne autour d'elle-même, la Lune tourne autour de la Terre et la Lune tournent autour du Soleil, suivant le même processus, encore et encore. Et on accuse le coup en pointant du doigt une certaine routine qui s'installe parfois et qui devient pesant, si pesant qu'on éprouve le besoin de ponctuer cette routine par des moments de nouveauté. Et si je changeais de travail? Et si j'allais passer des vacances dans un pays que je ne connais pas encore, si j'achetais de nouveaux vêtements pour renouveler ma garde-robe, et si je faisais quelque chose de différent aujourd'hui, juste pour pimenter un petit peu le quotidien, juste pour sortir de cette monotonie. Heureusement qu'on ne peut pas changer d'épouse et d'époux et d'enfants à notre gré. Parce que je sais qu'il y en a qui auraient aimé faire ça. Et donc la question du sens, de l'importance ou de la valeur de ce que nous faisons se pose. Quel intérêt avons-nous à mettre tant d'efforts dans nos entreprises? C'est une question qu'un sage s'est posée dans la parole de Dieu. Et je vous propose de lire la façon dont il présente sa réflexion dans le livre de l'Ecclésiaste. Au chapitre 3, un passage que nous connaissons bien, en tout cas les 8 premiers versets. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 15, nous lirons. Ecclésiaste chapitre 3. Vous êtes là ? Et je lis. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Et même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi pour que tout homme mange et boive ce qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure à toujours. Il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Ce qui a déjà été et ce qui existera est déjà là. Dieu ramène ce qui a disparu. Jusque-là, notre lecture. La question posée au verset 9. Verset 9. Peut être comprise de deux manières. Soit négativement, soit positivement. Et d'ailleurs, les commentateurs qui s'y sont penchés sont partagés sur comment il faudrait voir ce verset 9. Soit on la considère comme la conclusion de ce qui précède, des versets 2 à 8, soit comme une question introductive à ce qui suit, genre versets 10 à 15, voire 17 même. Et je nous propose de jouer sur les deux tableaux. Tantôt la considérer comme la conclusion de ce qui est dit précédemment et tantôt de ce qui est dit après. Et pour finir, nous verrons les conseils que, alors celui que j'appelle le maître de sagesse, celui qui réfléchit à toutes ces choses-là, en l'occurrence au temps, nous verrons quels conseils il donne pour savoir comment vivre ces deux réalités qu'il expose. Donc que dit-il alors des activités humaines? Parce que c'est bien là la question. D'un côté, les activités humaines, de l'autre, les activités de Dieu, et ensuite, ce que l'homme est censé faire entre les deux. Les activités humaines, donc. Si nous prenons la question du verset 9, comme conclusion du verset 2 à 8, c'est de façon négative qu'il faut comprendre. Et je vais nous dire pourquoi je crois qu'il faut comprendre ça de façon négative. Le maître de sagesse commence sa réflexion sur le temps avec une entame au verset 1 qui tient lieu, je pense, d'introduction, une affirmation générale, percutante, logique, qu'il va ensuite développer au verset 2 à 8. Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. C'est ça son affirmation. Percutant. Un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous le ciel. Ensuite, il présente une liste de 14 paires, si vous avez compté, hein, 14 paires d'éléments qu'il met en opposition suivant le même schéma. Un temps pour et un temps pour. Et on a l'impression d'être en face d'un balancier, d'une horloge marquant ce mouvement répétitif, comme le temps qui passe continuellement, sans fin. Toutes ces paires décrivant des moments de la vie d'un être humain. Et donc l'expression « sous le ciel » ou « sous les cieux » selon des versions souligne bien ce fait. Il s'agit de la vie de l'homme, ce qui concerne les humains. Et si on veut enfoncer le clou, on peut remarquer qu'il s'agit de 14 paires d'éléments, comme j'ai dit tout à l'heure. 14, 2 fois 7, 7, le chiffre de la plénitude, la totalité. Et donc, ce n'est pas anodin s'il en reste là, à ces 14 paires. Comme pour dire que toute l'activité humaine est ici représentée. Je dis bien représentée, même s'il ne liste pas tout ce qu'on fait dans une vie. Il faut remarquer que certaines de ces activités sont des moments joyeux, d'autres sont tristes, et cela s'enchaîne alternativement au gré de nos vies sur Terre. Il est question de naître et de mourir, de planter et d'arracher, de tuer et de guérir, de détruire, de bâtir, etc. Et le drame dans tout ça, c'est que d'une paire qui est mentionnée, on a l'impression que l'élément présenté et son opposé s'annulent. Il naît, il est tué, il n'est plus là, comme s'il n'avait jamais existé. On peut comprendre alors la question du maître de façon négative. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? Autrement dit, à quoi ça sert de s'user au travail si on ne peut même pas en tirer un profit, un avantage ? Si je peux illustrer mon propos avec un exemple que nous vivons, en tout cas ceux qui travaillent et qui ont une maison ou un appartement qui louent, on se plaint souvent de l'État qui donne d'une main et qui reprend de l'autre. L'État qui décide d'annuler la taxe d'habitation et puis la transforme en une autre taxe qu'elle prend de notre côté. Et puis on se demande, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert d'enlever la taxe d'habitation et de l'autre côté de nous donner autre chose à payer ? À côté, à quoi ça sert ? Parce qu'au bout du compte, les deux choses s'annulent. Tu m'enlèves la taxe, mais à côté tu me rajoutes quelque chose d'autre, et donc je dois toujours payer. À quoi ça sert ? Quelque chose de plus terre à terre. Il y a quelque temps, ma fille m'a demandé pourquoi il fallait faire le lit au réveil, alors qu'au coucher, on va devoir défaire ce même lit. Je me suis posé la même question il y a quelque temps, c'est très longtemps. Pourquoi laver la vaisselle alors que tout à l'heure, on va la salir ? Pourquoi nettoyer la maison alors que on y passe la journée et on la salit ? Pourquoi faire ces choses répétitivement dans sa vie alors que tôt ou tard, on sera amené à les défaire. Et on a l'impression que les deux choses s'annulent. Même nos relations sont en cause parfois. Parce qu'il faut les entretenir, ces relations. Pourquoi construire des relations pour plus tard se fâcher avec mon ami et puis se séparer ? Et la vie, elle est comme ça. Rien n'est permanent dans ce que nous faisons en tant qu'être humain. Tout passe et recommence. Et passe encore et recommence à nouveau. Alors oui, le maître se pose la question de la pertinence de l'activité humaine. Est-ce que finalement tout cela a un sens ? Est-ce que ça vaut le coup de faire toutes ces choses ? C'est bien ainsi que la vie de l'être humain se déroule. Notre existence est remplie de paradoxes. Pleurer et rire, et parfois cela arrive dans le même souffle. Vous n'avez jamais vu des gens pleurer et rire en même temps ? Dans le même souffle, se lamenter et danser, chercher, perdre, garder et jeter, etc. Rien de ce que l'homme fait est permanent. On ne rit pas tout le temps. On ne pleure pas tout le temps. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons a une durée limitée dans le temps. Notre existence est limitée dans le temps. Et on se demande même si cela vaut la peine de s'échiner à travailler comme nous le faisons chaque jour, se réveiller à 5 heures du matin, prendre le bus, aller au travail, revenir, et encore le matin, puis pour dépenser parfois l'argent qu'on n'a même pas gagné, parce qu'il est parti déjà l'argent. Et le maître de sagesse, lui, il considère ces choses et il dit « Tout cela, c'est Hevel. Hevel. Tout est absolument Hevel. C'est quoi ce mot? C'est de l'hébreu. La plupart des Bibles traduisent ce mot Hevel par vanité. Tout est vanité, mais c'est bien faire une injustice à ce que vraiment veut dire ce mot, en tout cas son essence, parce qu'en hébreu, le mot signifie fumée, vapeur. Le maître l'utilise 38 fois dans le livre, comme une métaphore, une image pour décrire ce qu'il veut dire un petit peu. Et ce qu'il dit, c'est que dans la vie, les choses arrivent et on a l'impression de pouvoir les saisir parce que la fumée a une forme. Et quand on croit la saisir, on constate qu'il ne reste plus rien. Plus rien. Et on a l'impression que ce maître de sagesse-là, il est bien pessimiste parce qu'il nous brosse un portrait de la vie un peu sombre. Mais je crois que c'est sans compter avec la deuxième partie de notre passage. Parce que là, il parle de l'activité de Dieu. Qu'est-ce qu'il en dit? Alors, bien sûr, il est vrai qu'il y a du positif comme du négatif dans les activités humaines. Et parfois même, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de négatif que de positif. Et ça, ça s'appelle déprimer, hein. Mais si le maître de sagesse grossit le trait du caractère éphémère de l'activité humaine, s'il met l'accent sur le manque de permanence de nos biens, de nos réalisations, s'il nous semble que les bénéfices que nous tirons de notre travail sont dérisoires en comparaison de tout l'effort que nous y mettons, c'est bien pour mettre l'accent sur autre chose. Le croyant doit apprendre à considérer son existence sur terre du point de vue de Dieu et pas du point de vue de lui-même, de l'être humain. Parce que ses activités à lui sont toujours, activités de Dieu, sont toujours supérieures aux activités humaines. Dans ce cas, la question du verset 9 peut-être une invitation à entendre et à considérer les activités de Dieu dans un premier temps pour ensuite comprendre plus justement là où les avantages qu'il a consentis aux efforts auxquels il nous soumet, comme il le suggère par exemple au verset 10. Alors les activités de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit le maître de sagesse par rapport aux activités de Dieu? Dans notre texte, ce que Dieu fait, par exemple, est évoqué dans les versets 10, les versets 11, les versets 14, les versets 15. Et le maître de sagesse nous donne à réaliser qu'au verset 10, que c'est Dieu lui-même qui assigne aux êtres humains leurs occupations. Quel que soit ce que nous trouvons à faire de nos mains, c'est Dieu même qui nous les assigne. Alors vous savez, certaines personnes pensent que le travail est une malédiction, ou que non. L'activité humaine, oui, a reçu une certaine malédiction après la chute. Mais bien avant la chute, le Seigneur nous a assigné du travail. Lorsqu'il a créé Adam, il lui a dit, tu prends soin de ce jardin que je t'ai confié. Tu la cultives et tu en prends soin. C'est Dieu qui donne le travail. Le travail est un bienfait. Si bien que le livre des Proverbes dit que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Je le répète souvent à ma fille. Ça. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et donc, cette activité humaine, dans toute sa diversité, sa complexité, ses paradoxes, c'est Dieu qui la donne aux hommes. Et même si les bénéfices qu'on en retire nous semblent bien minimes, il n'est pas question de s'en défaire. Il faut travailler. Parce qu'il est précisé au verset 11 que ce que Dieu fait est bon. S'il donne le travail, C'est que c'est bien pour l'homme. C'est une bonne chose. C'est même une belle chose. Qu'est-ce que cela implique? Cela veut dire que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes ou à un hasard aveugle si c'est Dieu qui donne le travail. Même si nous nous sentons dominés par le temps et entraînés par les circonstances, ce ne sont ni le temps, ni les circonstances, ni le hasard qui sont nos maîtres. C'est Dieu, notre maître. C'est lui qui donne. C'est Dieu qui a le contrôle de tout ce qui se passe. Rien de ce qui est fait n'échappe à sa vigilance. Il a même le pouvoir de changer les temps et les circonstances, nous dit le prophète Daniel. Et quand il fait bien. Il fait toutes choses bonnes. Et cela implique aussi que le mal et le malheur ne viennent pas de Dieu. S'il nous est dit que toutes choses bonnes et bien belles nous viennent de Dieu. Dieu ne nous donne pas le malheur. Dieu n'est pas à l'origine du mal. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que cela contribue à donner du sens à notre existence. Si nous n'avions aucune de ces perspectives, quelle aurait été notre réalité à nous? Dieu a même voulu que nous sachions ce que représente l'éternité, nous dit la parole. Il a donné à chacun de nous une certaine conscience qu'il y a bien plus que notre propre réalité. Verset 2, verset 8, décrit la réalité humaine. Mais il nous dit qu'il y a bien plus ailleurs et il nous donne cette conscience dans la notion de l'éternité. Il y a des choses permanentes qui existent. Ne vous limitez pas à juste ce que vous faites ou ce que vous voyez ou à la compréhension que vous avez de votre existence. Il y a bien plus ailleurs. Et certainement que le problème des êtres humains, c'est que nous ne comprenons pas tout l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas une vision globale de l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas suffisamment de recul à l'échelle d'une vie humaine. Que sommes-nous? Bien peu de choses. Et c'est pourquoi, bien souvent, nous sommes perdus, ne sachant pas quelle direction prendre. Dans quelle école aller, par exemple? Quelle formation choisir? Quel métier choisir? Quel homme épouser? Quelle femme épouser? Combien d'enfants il faudrait mettre au monde? Nous sommes perdus. Parce que nous n'avons pas cette vision globale des choses. Seul Dieu a cette vision. Et nous passons nos vies entières à chercher, à faire ce qui nous semble bien, selon nos perspectives humaines. Et donc nos circonstances, aussi contradictoires qu'elles puissent être, n'ont de sens que si nous avons cette vision de l'éternité. Que si nous adoptons cette perspective que Dieu nous donne. Le maître de sagesse souligne un dernier élément sur l'activité de Dieu. Il affirme que si permanence il y a, cela provient de ce que Dieu réalise, parce que tout ce que Dieu fait dure toujours. Verset 14. Tout ce que Dieu fait, il sait que cela dure toujours. La version Sommer le dit bien, je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Je sais. Et c'est donc une certitude qui ne vient pas de l'observation ni de l'expérience, mais qui vient de la foi. Je sais, même si je n'ai pas le point de vue de Dieu sur toute l'éternité, mais le fait qu'il me donne de comprendre la notion, je sais. Je sais. Seule l'œuvre de Dieu est capable de durer éternellement. Elle est complète. Il n'y a rien à y ajouter. Il n'y a rien à y enlever. Je sais. Et je crois qu'il y a de quoi à être encouragé, à être rassuré. Parce que dans toutes les activités de Dieu, il apparaît comme celui qui surplombe tout. Celui qui a du recul, celui qui prend de la hauteur. Celui qui est maître des circonstances. Et nous avons tout le loisir de nous reposer en ce Dieu-là. Nous n'avons pas à craindre pour nos lendemains, nous dit la chanson. Parce que nos lendemains sont assurés, nos lendemains sont entre ses mains. Le temps et les circonstances sont entre les mains de Dieu. Alors que doivent faire les hommes entre ces deux réalités? Entre les activités de l'homme et les activités de Dieu. Que devons-nous faire? Comment devons-nous nous comporter? Comment devons-nous réagir? Et la réponse, je crois, se trouve dans les versets 12 et 13. Le maître de sagesse se montre très pratique, là. L'exhortation qu'il donne à partir de toute cette réflexion qu'il a eue en amont, c'est tout simplement de jouir du bon qui nous est donné. Alors j'espère que pour vous, ce n'est pas un gros mot. De trouver dans la parole de Dieu qu'il faut s'amuser, qu'il faut se détendre, qu'il faut prendre plaisir à faire des choses qui nous plaisent, tout simplement. J'ai reconnu, dit-il, qu'il n'y a de bon pour eux, c'est-à-dire les êtres humains, qu'à se réjouir et à se donner du bon temps, du bien-être pendant leur vie. Ce n'est pas moi qui le dis. Et aussi que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Le bonheur et le bien-être dont il faut profiter ici, ce sont bien sûr les plaisirs tout simples de la vie, y compris les plaisirs matériels comme manger, boire, s'octroyer du temps de loisir, pouvoir lire un bon livre, écouter un bon album de jazz ou regarder un match de foot à la télé. Que sais-je encore? Oui, j'aime le jazz. Un théologien écrivait que les partisans de l'ascétisme, vous savez ce que c'est que l'ascétisme? Un petit peu. Ceux qui prônent une vie austère, rigoriste. Eh bien, les partisans de l'ascétisme n'ont pas dû lire le livre de l'Ecclésiaste. Les chrétiens qui ne s'autorisent à penser qu'à la piété ou aux choses dites spirituelles se trompent et s'exposent à un déséquilibre de leur vie et de leur personne. C'est toujours le théologien qui parle. Certes, la piété est d'une importance extrême. La vie en Christ est d'une importance extrême. Mais nous avons aussi besoin de nous faire plaisir, de prendre du temps pour nous adonner à ce qui fait plaisir ou ce qui nous fait plaisir avec ce que nous aimons. Aller en vacances avec nos familles quand cela est possible. Aller se balader ou aller au resto avec son épouse, fêter l'anniversaire de mariage. Ça, c'est bien, ça. Dieu nous a créés ainsi. Il serait dommage de ne pas en profiter. Le maître affirme que pour pouvoir agir ainsi, mais il faut recevoir ce don de Dieu. Il sème dans notre vie des moments de bonheur pour que nous en profitions. Et nous en priver, c'est passer à côté de ce qu'il lui-même a prévu pour nous. Alors je suis d'accord si vous répliquez qu'il faut faire attention. D'accord, oui, il y a bien du danger à vivre uniquement pour le plaisir, bien sûr, ou à négliger nos responsabilités devant Dieu, envers les hommes, envers la création. Bien sûr, il faut parfois accepter de se priver de choses agréables pour pouvoir atteindre certains objectifs. Bien sûr, il s'agit de bien placer ses priorités en avant, savoir ce qu'on veut dans la vie. Mais on aura tort quand même de refuser totalement le plaisir. Il nous faut vivre pour Dieu et non pas pour ces choses-là. Mais que veut dire vivre pour Dieu? Sinon de recevoir les bonnes choses qu'il a créées pour nous. Finalement, notre maître de sagesse n'est pas si pessimiste qu'on pourrait le croire. Même si au verset 9, il a pu suggérer qu'on ne tire qu'un maigre profit de notre travail, il dit aussi que Dieu donne à l'homme de goûter au bonheur dans le travail même qu'il fait. Et en réalité, le travail qui paraîtrait futile, décevant, parce qu'on en tire très peu de profit, eh bien ce travail-là s'inscrit dans un cadre plus large que nous ne voyons pas forcément, que nous n'imaginons même pas forcément. Dieu fait toutes choses bonnes, toutes choses arrivent en son temps. Et le frère a cité la prédication qu'on a eue il y a quelque temps par le frère Nisus. Qui aurait imaginé que le petit Joseph, rêveur et agaçant, il faut le dire, a raconté ses rêves à tout bout de champ, qui aurait pu imaginer que ce bonhomme de 17 ans aurait été premier ministre en Égypte à 30 ans, avec toutes les péripéties qu'il a dû endurer, toutes les galères par lesquelles il est passé? Qui aurait pu imaginer qu'un tel bonhomme aurait été premier ministre en Égypte, jusqu'à sauver sa famille, le peuple de Dieu? Dieu fait toutes choses en son temps. Alors que retenir de tout cela? Le jugement que nous portons sur nos activités, eh bien, elles peuvent être faussées si nous les considérons seulement d'une perspective humaine et non pas suivant une perspective éternelle, une perspective à long terme. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, à son niveau, à sa hauteur. Et donc demain, ceux qui iront à l'école, ceux qui iront au travail, ceux qui iront en formation, ceux qui iront à la fac, ne pensez pas perdre votre temps dans votre dur labeur. C'est Dieu qui vous le donne. Nous finirons par aboutir à la même conclusion que le maître si nous pensons autrement. Hevel. Tout est absolument Hevel. Mais si nous adoptons la perspective de Dieu, si nous décidons que notre travail, nos efforts s'intègrent dans quelque chose de plus grand, de plus harmonieux, notre vie ne serait que bénéfice, parce que nous aurons une autre perspective de ce que nous faisons. Il y a un homme qui a bien compris comment ça marche. Un homme qui s'appelle Jésus. Vous savez, Jésus était un bon vivant, hein. Et on l'a même critiqué pour ça. Il aimait bien sûr boire, manger, passer du temps avec ses disciples, oui, et aussi d'autres. Il se faisait inviter à droite, à gauche. Mais il a vécu sachant que le temps et les circonstances étaient entre les mains de Dieu, son Père. Lui aussi avait des activités d'homme, comme vous et moi, travaillant avec son père Joseph et faisant tout ce que faisaient les autres hommes à son époque. Il avait même ses moments de détente. Pour autant, il considérait ses activités sous le prisme de la mission qui lui a été confiée par son père. Et lorsque le moment était venu de s'engager dans le combat du salut des hommes, il n'a eu de cesse de dire qu'il faisait ce que le Père lui demandait de faire. Accomplir la mission que le Père lui a donnée d'accomplir. Malgré sa brève vie, 33 ans, il était parti, hein. À notre tour, il nous est demandé de considérer nos activités de cette année, de l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. Toutes nos activités sous la perspective de Dieu, une perspective éternelle, beaucoup plus large que ce que nous pouvons voir ou comprendre ou embrasser. Nous sommes appelés à être imitateurs de Christ. Alors suivons-le, même dans nos plaisirs et même dans nos travaux. Amen.